Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de ce journal de midi sur Radio Kapi, 7 personnes déplacées sont décédées en moins d'un mois dans la commune rurale de Kaina, territoire de Lubero au nord Kivu. Selon la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme, la famine et le manque de soins de santé primaires sont à la base de ces décès. Aucune femme n'a été élue membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Préoccupée, la députée provinciale Christine Mwando dénonce l'égoïsme des hommes. Vous l'entendrez. La coordonnatrice du projet sur la santé sexuelle et reproduction au sein des SOS SIDA est l'invitée de ce journal. Docteur Ghislaine Boudema parle de la deuxième campagne de sensibilisation sur le HPV, Human Papillomavirus, dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au sud Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Madame, messieurs, bonjour. Grâce Hamza Timasanzi, je suis à la présentation. Ce journal part du Nord Kivu où 7 déplacés sont décédés en moins d'un mois dans la commune rurale de Kaina. C'est dans la partie sud du territoire de Lubero. La société civile Force et Vive de la région rapporte que la famine et le manque des soins de santé primaires sont à la base des CDC. Elle lance un SOS aux autorités. Sadiq Aboubakar pour les détails.
Parmi ces victimes, on trouve 2 enfants. Le dernier cas de décès remonte à mercredi. La société civile de Kaina rapporte que ces personnes sont décédées à cause de la sous-alimentation et du manque des prises en charge médicales. Ces déplacés, estimés à environ 15 000 ménages, sont éparpillés entre Kaina, Kirumba, Miriki, Miobwe, Luofu, Kasehe, Kamandi Lac et Kamandi Jite. Amani Kinda, président de la société civile, affirme que moins de la moitié de ces personnes ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, une assistance jugée par ailleurs insignifiante, ajoute-t-il. Ces déplacés, venus majoritairement de Kibrizi dans le territoire de Rutshuru, sont hébergés dans des familles d'accueil et d'autres occupent des églises. Les familles d'accueil sont également confrontées aux problèmes d'accès à leurs champs. Ceux-ci se trouvent en effet dans une zone occupée par des groupes armés, ajoute la même source. Ils exigent de l'argent aux propriétaires des champs avant d'y accéder, déplore la société civile. Nous n'avons pas réussi à avoir l'administrateur du territoire de Lubero pour sa réaction. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Pendant ce temps au sud Kivu voisin, plus de 282 000 personnes déplacées de Masisi au nord Kivu sont arrivées à Minova dans les territoires de Kalehe. Ces hommes, femmes et enfants fuyant les combats entre les FARDC et les terroristes de M23 RDF vivent dans des conditions déplorables à Minova. Leur présence prolongée perturbe ainsi le déroulement des enseignements dans les salles de classe qui les hébergent. La société civile de Minova plaide pour une réponse urgente en faveur de ces personnes. À Bukavu, Emmanuel Elamejo Kabedi.
C'est depuis le mois de février dernier que les déplacés de Masisi au nord Kivu affluent dans la cité de Minova et dans d'autres localités environnantes du territoire de Kalehe. Ils sont logés dans des familles d'accueil, d'autres occupent les salles de classe, les églises et les structures de santé ou encore certains immeubles en chantier. Avec cette situation, les établissements scolaires de Minova fonctionnent difficilement. Les déplacés sont obligés de libérer provisoirement les salles de classe et permettre le déroulement des cours pendant quelques heures de la journée. Pour survivre, certains travaillent pour les comptes de ménage de Minova afin de recevoir un revenu d'environ 2000 francs congolais par jour. L'accès à l'eau potable est même difficile. La Croix-Rouge du Nord Kivu a tout de même réussi à distribuer des couvertures et autres ustensiles de cuisine. Certains humanitaires présents dans la zone offrent des soins médicaux gratuitement aux déplacés malades. La société civile de Minova plaide pour une réponse urgente en faveur de ces personnes, mais surtout favoriser les conditions sécuritaires pour leur retour dans leur milieu respectif. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Comme annoncé dans les titres, aucune femme n'a été élue comme membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Dans une déclaration à la presse hier à Kalemie, la députée provinciale Christine Mwando s'est dit préoccupée par cette situation et dénonce l'égoïsme des hommes. Elle pense que la candidature de l'unique femme au poste de questeur devait être prise en considération. Christine Mwando, députée provinciale du Tanganyika, est au micro de Paulin Munanga.
Je suis un peu satisfaite parce que nous n'avons pas pu avoir une représentativité de femmes. La femme n'a pas pu être élue, ce qui est vraiment dommage. Parce que normalement, on a déjà parlé de la parité, et puis c'est dans la loi. On doit respecter la représentativité de la femme à tous les niveaux. Vous avez remarqué que les femmes aussi sont en train d'émerger. Et c'est vraiment dommage. ce qu'on aurait pu faire si les hommes n'avaient pas été égoïstes. On aurait pu demander à ce que le ticket de la femme soit respecté. Parce qu'on a eu une seule femme comme candidate. Elle a été la seule femme. Mais malheureusement, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Il y a eu deux candidats. Nous acceptons ce qui est arrivé, malgré nous. Je dis à la population de nous accompagner, parce que nous venons de commencer un travail, et que la population ne se dise pas que nous sommes aussi les seuls responsables. Nous sommes une équipe. Les élus et la population, nous formons une équipe. La population doit nous orienter, la population doit nous accompagner, parce que la province n'appartient pas seulement aux élus, mais elle appartient à tout le monde.
Revenons au Sud Kivu. C'est hier vendredi que les femmes agripreneurs de la ville de Bukavu ont célébré la Journée internationale de la femme. C'était à travers une journée d'action et de plaidoyer dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. L'objectif était de sensibiliser sur les défis auxquels sont confrontées les femmes agripreneurs à Bukavu et sur la recherche des solutions concrètes pour renforcer leur autonomisation économique. Reportage de Rachel Kessimbango.
Pour les organisateurs, ces femmes agripreneurs sont des piliers de l'économie et des familles. Voilà pourquoi il faut les célébrer et sensibiliser sur les défis qu'elles rencontrent. Honore David Safari, directeur de la Maison régionale des jeunes.
Les femmes agripreneurs, c'est une catégorie de femmes qui, finalement, n'est pas prise en compte dans notre communauté. Pourtant, elles sont au cœur de notre alimentation dans la ville de Bukavu. Le fruit, les légumes, les tubercules et autres viennent évidemment de ces femmes qui, non seulement vendent avec très peu de moyens financiers, mais savent tenir des familles dans un contexte de crise économique accrue.
Sarah Abeli, jeune femme agripreneur et vendeuse des fruits dans la ville de Bukavu, affirme que c'était une belle occasion de présenter leurs problèmes aux autorités. Elle revient sur ces défis.
Premièrement, nous avons le problème de route provenant d'Ouvira. Il n'y a pas de bonne route pour emporter nos fruits à bon état. À part ça, les mamans qui vendent des fruits en cours de route n'ont pas d'espace pour être à l'aise. Les policiers les mettent mal à l'aise vraiment. Nous demandons un espace pour les mamans qui vendent des fruits. Le gouvernement de construire une bonne route pour nos mamans qui amènent des fruits provenant d'Ouvira et peu importe où.
Signalons qu'avant d'être en salle, ces femmes et l'équipe organisatrice avaient organisé une marche et ont déposé un mémo au maire de la ville. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Merci de nous écouter dans la commune d'Alungouli, à Kindu, dans la province du Maniema, où la Caisse Générale d'Épargne du Congo Kadeko a procédé hier à l'octroi du premier prêt de crédit solidaire dit la Reine aux femmes commerçantes des marchés des RVA, Tchomba et Elila. Ces fonds allant de 5 000 à 500 000 francs congolais de 3 mois sont remboursables au taux de 3%. Le directeur provincial invite ceux qui hésitent encore de passer à la Kadeko pour bénéficier de ces crédits. Boisembe Kikukama Benoît explique au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, aujourd'hui, c'était le jour de... On a libéré les montants, on a donné les montants à ce groupe-là solidaire qui a été constitué à Kindu. C'était un groupe de 12 femmes à qui nous avons remis l'argent parce que ces femmes-là ont réuni les conditions pour accéder à notre crédit solidaire que nous appelons le crédit La Reine, lancé par notre directeur général, Madame Juliette Mugole. Nous avons exhorté aux femmes d'abord de respecter les engagements parce que c'est un crédit que nous avons étalé dans 3 mois. C'est un crédit à rembourser dans 3 mois et ce crédit-là sera remboursé à la fin de chaque semaine. Nous avons accordé un délai de grâce d'une semaine et c'est après cette semaine-là, c'est l'autre semaine du 13 que les femmes vont commencer à rembourser ces crédits-là et un douzième du montant que chacun a pris. Je demande aux autres qui hésitent encore de venir vers la Kadeko ouvrir leur compte et se constituer en groupe solidaire et que nous allons évaluer leur montant et sur base de ces éléments-là, nous pouvons encore accorder les crédits à d'autres groupes.
Et à Nitouri, environ 200 femmes venues des différentes couches de la population et personnel féminin de la MONUSCO ont pris part ce samedi à Bunia à un mini-marathon féminin. L'activité organisée par la section de l'information publique de la MONUSCO Bunia dans le cadre du mois de la femme vise à bannir toutes les barrières, qu'elles soient communautaires ou sociales. Elle a également pour objectif d'encourager les femmes à maintenir une activité sportive régulière afin de contribuer aux efforts en cours pour la restauration d'une paix durable à Nitouri. Des prix sont donnés au trio arrivé en tête sur une distance d'environ 6 km. C'est ce qu'il nous dit à Bunia, Marcel Kizabiamongo.
Parti de l'aéroport national de Morongo à Bunia, vers cette aire locale, les marathoniennes sont arrivées au point de chute au terrain municipal de Epo, au centre-ville. Après une trentaine de minutes de course, Anastasie Neema, la vingtaine, a remporté la compétition avec à la clé une enveloppe de $150. Émue, elle exprime sa joie d'avoir participé à cette activité.
J'étais parmi les premières à être devant. Je ne me suis pas permis que les autres me dépassent la tête.
Elle a été suivie par Nganabo Chance qui a réussi $100 et née Mama Vie Divine, arrivée troisième. Quant à elle, elle a eu une récompense de $75. Quatre prix spéciaux de $25 chacun ont également été remis aux deux plus âgées des participantes. Ce marathon a aussi permis aux femmes de se ressourcer et se compresser face aux défis auxquels elles sont confrontées. Objectif, les inviter à faire une activité sportive et régulière pour mieux s'engager dans la restauration de la paix et la cohésion sociale. Liliane Nyacha, chargée de l'information publique de la MONUSCO à Ituri.
C'est la femme uniquement qui est célébrée autour d'un objectif commun qui est celui du sport.
C'est dans la convivialité que les femmes se sont séparées, toutes ravies d'avoir participé à cette activité. Depuis les terrains Épouville à Bounia, Martial Kizapiamungu, Radio Okapi.
Et puis, dans la ville de Beni au Nord Kivu, une vingtaine d'animateurs et acteurs de la protection sont en formation de 3 jours depuis jeudi. Cette formation est organisée par l'association Jeunes Patriotes Consolidateurs de la Paix, JPCP. Ces renforcements des capacités se focalisent sur la protection de l'enfant au regard des instruments juridiques de protection. Jusqu'à ce samedi, il est question de faire ressortir l'importance de la protection de l'enfant dans le développement de la communauté. Benjamin Asimoni, coordonnateur des JPCP, le dit à Marc et Marofimbo.
La situation sécuritaire a déjà pris en otage presque tous les acteurs. Maintenant, tous nous sommes focalisés sur le peace building, nous sommes sur la cohésion sociale. Donc, ces histoires-là de la consolidation de la paix et tout ce qui va avec, c'est bien. Mais ça nous a fait oublier certaines autres thématiques très importantes qui ont aidé cette communauté, n'est-ce pas, à maintenir certaines bonnes cultures et certaines bonnes pratiques afin de préserver le bien-être des enfants. Nous nous sommes rendus compte que nos apports par rapport à l'encadrement des enfants ont baissé. Et il fallait qu'on renforce encore en capacité nos animateurs et qu'on puisse essayer de raviver encore ces activités par rapport à l'encadrement des enfants. Parce que dans cette période ici, il ne faudrait pas qu'on se concentre seulement sur les actions de la consolidation de la paix seulement, mais bien à cette pépinière communautaire, la couche des enfants, qui doit aussi être prise en compte afin que cette dernière puisse aussi grandir dans un processus où cette couche-là des enfants comprend aussi les enjeux essentiels et ait au moins un espace harmonieux afin que la survie et le développement soient garantis pour ces derniers.
Revenons un instant au Maniema pour parler santé. Le médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose plaide pour qu'il n'y ait pas des mouvements de grève des professionnels de santé non médecins et médecins afin d'augmenter les performances liées à la détection des cas de tuberculose. Docteur Raphaël Ngongo Omeonga affirme aussi qu'on enregistre plus de ruptures en intra des dépistages ou diagnostics de la tuberculose pour la microscopie. Docteur Raphaël Ngongo Omeonga parle au micro de Florence Kizalou.
Pour notre province, nous avons 76 centres de dépistage et de traitement de la tuberculose fonctionnant dans 18 zones de santé. Et nous disposons de 7 sites de biologie moléculaire. Nous avons eu à notifier 5004 cas de tuberculose sensible et 25 cas de tuberculose pharmaco-résistant l'an dernier. Ce qui représente pour la tuberculose pharmaco-sensible un taux de détection des cas incidents attendus à 49%. Comparé à l'année 2022, nous avons connu une baisse pour l'année 2023. Donc nous sommes partis de 52,3% en 2022 à 49% en 2023. Ceci s'explique par des ruptures fréquentes des stocks en médicaments tuberculés de première ligne enregistrés dans 25% des formations, au moins pour un trimestre, des ruptures généralisées en entrant des épisodes de diagnostic des îles connues au deuxième et au troisième trimestre 2023, une grève généralisée des professionnels de santé non médecins enregistrée chez nous durant 75 jours au cours de l'année 2023. Aussi, nous enregistrons une faible performance, donc un faible taux et une faible proportion de cas diagnostiqués de tuberculose qui sont testés au VIH.
Par ailleurs, lutte contre le réchauffement climatique et protection de l'environnement, c'est le nouveau projet de l'organisation non gouvernementale Merci Corps, lancé officiellement ce vendredi à Beni. Ce projet va s'exécuter dans les Grands Nord Kivu et dans les territoires de Mambasa Nitouri. Il s'agit d'un projet de 5 ans qui a pour objectif de diminuer la pression exercée par les riverains sur le parc national de Virunga au Nord Kivu ainsi que la réserve des faunes à Okapi à Mambasa. Marc et Marofimbo pour des précisions.
Depuis de nombreuses années, les conflits de voisinage sont devenus récurrents entre les populations riveraines du parc national de Virunga et de la réserve de faune à Okapi de Poulou dans les territoires de Mambasa, en Ituri, et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Ces populations, en quête d'espace de survie, exercent une forte pression sur ces aires protégées, notamment à travers la coupe de bois pour la fabrication de la braise. Afin de prévenir ces conflits et leurs conséquences, l'ONG internationale Merci Corps et deux organisations environnementales congolaises se sont associées pour mettre en place le projet Tujenge, bâtissons en français. Ce projet attend lutter contre la déforestation en mettant à la disposition de la communauté des foyers améliorés à la base des briquettes. Un autre volet de ce projet est la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, il sera question d'amener les populations riveraines des aires protégées à ne plus utiliser la braise et donc à ne plus couper des arbres. Pour ce faire, ce projet ambitionne de mettre en place des foyers électriques à induction à base d'énergie solaire. Signalons que les zones concernées par ces projets dans un premier temps sont la ville de Beni, les secteurs de Rwenzori, principalement la zone du groupement Buliki, ainsi que la réserve des faunes à Okapi dans les territoires de Mambasa en Ituri. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Plusieurs organisations de la société civile interpellent le pouvoir de transition au Burkina Faso. Dans une déclaration datée du 27 mars 2024, elles appellent le régime du président Traoré à respecter l'ensemble des dispositions de la Constitution et à procéder à la libération des personnes illégalement arrêtées ou arbitrairement réquisitionnées.
L'invité.
L'invité nous vient du Sud Kivu. Il s'agit de la coordinatrice du projet sur la santé sexuelle et reproduction au sein des SOS SIDA. Docteur Ghislaine Boudema parle de la deuxième campagne de sensibilisation sur les HPV, Human Papillomavirus, dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au Sud Kivu. Elle nous parle de la sensibilisation des femmes ayant déjà eu au moins un rapport sexuel à se faire dépister à l'infection Human Papillomavirus, qui est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente chez les femmes et qui peut conduire au cancer du col de l'utérus. Docteur Ghislaine Boudema répond aux questions de Rachel Kessembango.
Docteur Ghislaine Boudema, bonjour.
Bonjour.
Vous lancez la deuxième phase de la campagne de sensibilisation sur le HPV, dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus au Sud Kivu. Pourquoi cette campagne et c'est quoi le HPV?
Le HPV, c'est le Human Papillomavirus. En français, c'est le papillomavirus humain. C'est un virus qui est le plus incriminé dans la survenue du cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, nous allons lancer la deuxième campagne de sensibilisation sur les HPV qu'on vient d'expliquer et le dépistage et traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Ceci parce que le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde et le deuxième cancer qui est responsable des décès chez la femme. Et pour cette raison, nous avons trouvé que parce qu'aussi c'est un cancer qui est curable s'il est dépisté et traité à temps. Raison pour laquelle nous avons trouvé que c'est très important d'agir, de faire des sensibilisations chez les femmes sur la prévention de ce cancer et aussi de faire le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus pour éviter aux femmes de développer par la suite le cancer du col de l'utérus.
Vous dites que le HPV, Human Papillomavirus, c'est l'infection, c'est l'IST la plus fréquente, mais dites-nous comment est-ce que ça se transmet ces virus?
Le Human Papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible et se transmet principalement par la voie des rapports sexuels non protégés. Et donc, même lors du premier rapport sexuel, on peut attraper le Human Papillomavirus. Et donc, on peut dire que toute femme qui a déjà eu le rapport sexuel est à risque de développer l'infection à Human Papillomavirus et par conséquent à risque de développer le cancer du col de l'utérus dans les années à venir si elle ne se fait pas régulièrement dépister.
Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur ce qu'est le cancer du col de l'utérus?
Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui concerne une partie de l'utérus de la femme. Et le cancer qui se développe sur cette partie, c'est ce qu'on appelle cancer du col de l'utérus.
Quels sont les risques pour une personne porteuse de ce virus?
Ce n'est pas toute personne qui est infectée par le Human Papillomavirus qui développe le cancer de l'utérus. 90% des personnes qui ont été en contact avec le Human Papillomavirus éliminent le virus par le mécanisme immunitaire du corps humain. Et c'est seulement 10% des personnes qui ont été en contact avec le human papillomavirus qui vont développer l'infection à human papillomavirus qui peut évoluer vers le cancer du col de l'utérus dans les années à venir.
On peut attraper ce virus même si on a utilisé le condom?
Oui, on peut développer l'infection à human papillomavirus même si on a utilisé le condom. Parce que c'est un virus qui se transmet même par contact peau à peau ou contact avec les muqueuses d'une personne infectée par l'infection humaine papillomavirus vers une personne non infectée.
Comment savoir si une femme a le cancer du col de l'utérus? Est-ce qu'il y a des signes, de symptômes qui peuvent alerter?
Pour savoir si une femme a le cancer du col de l'utérus, je dirais qu'il faut se faire dépister. Parce que la plupart des signes apparaissent au stade avancé de la maladie. Mais au début de la maladie, c'est souvent asymptomatique. Et donc, la meilleure façon de savoir, c'est de se faire dépister régulièrement afin que si on aurait eu un cancer du col de l'utérus, que ça soit dépisté à temps et que ça soit traité à temps.
Pour finir, que faire pour prévenir cette infection et par conséquent le cancer du col de l'utérus?
Je dirais que la prévention du cancer de l'utérus a trois stades. Au stade primaire, il s'agit de la sensibilisation et la vaccination contre le HPV. Au deuxième stade, c'est le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et le troisième stade de la prévention, c'est ça le traitement des cancers et il y a aussi les soins palliatifs. Et donc pour chaque femme en activité sexuelle, il est important de se faire dépister régulièrement et puis de se faire traiter au cas où il y aurait les lésions précancéreuses du col de l'utérus.
Je vous remercie.
Merci.
Notre invité, Dr. Ghislaine Boudema, s'entretenait avec Rachel Kiesimbango depuis Bukavu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Jacques-Yves Molima, qui l'a coordonné et supervisé, et Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Nsoalo, qui a assuré la mise en onde. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis, et très bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix. Excellent week-end chez vous.